Les médias, pour moi, c'est des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, des micros.
Interclasse.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Interclasse, c'est le programme d'éducation aux médias et à l'information créé par France Inter à la suite des attentats de janvier 2015. Pendant un an, des professionnels de la station accompagnent des élèves scolarisés dans les quartiers populaires et leur font découvrir l'univers exigeant de la radio. Interclasse est une aventure journalistique et humaniste où la promotion de la citoyenneté s'incarne à travers le reportage et la découverte du monde. C'est un acte politique fort qui engage chaque adulte de France Inter au contact de ces jeunes, plein d'énergie et de curiosité. Ce programme repose sur l'engagement de nos équipes et des professeurs et continue à exister grâce aux convictions républicaines de nos partenaires, la Fondation de France, le CLEMI, l'Institut pratique du journalisme Paris-Dauphine et Netia. Au fil des mois, les collégiens et les lycéens, avec confiance et patience, apprennent à travailler dans notre environnement radiophonique et chaque été, ils vous font partager cette expérience unique dans leur scolarité. Bonjour à tous, vous écoutez France Inter, bienvenue dans Interclasse.
Interclasse, saison 3.
C'est parti !
Les ados font de la radio comme des pros.
Sur France Inter.
Je pourrais plus un jour faire confiance à un homme. J'aurais toujours cette image de l'homme qui hurlait, qui me faisait des remontrances désobligeantes. Oui.
Mais la maison des femmes, ça sert à ça, à refaire confiance, à refaire votre vie.
Oui. Mais là, je suis pas encore prête. Là, je pense à moi.
Extrait de l'un des reportages que nous allons écouter dans cette dernière émission de l'été, nous avons demandé cette année à chaque classe de faire des interviews en s'inspirant de l'un des mots de la devise républicaine. Et cet après-midi, nous vous proposons d'écouter le travail des élèves du collège Pierre de Jeter de Saint-Denis. Bonjour à toute la classe avec nous dans ce studio. Autour de la table, Fazil, Agnaline, Nicoletta, Louay, Gaouré, bonjour à vous. Nous allons débattre de votre quotidien, de vos aspirations, de vos rêves et de votre vision de la société. Également devant les micros, Maëva, Penda, Lilia et Fatoumata pour présenter les quatre reportages qu'elles ont réalisés avec leurs camarades. Autour de nous, dans ce studio, les professeurs de Saint-Denis, Maud Oudard, Yannis Roder et Gilles Guégère, et puis également présents, Cyril Graziani, journaliste au service politique à France Inter, Emmanuel Kerat, producteur à la librairie francophone, et Mathilde Benzé, étudiante en journalisme à l'IPJ Paris-Dauphine.
Liberté.
Égalité.
Fraternité.
Liberté. Liberté. Égalité. Égalité. Fraternité.
Liberté, égalité, fraternité, que signifient ces mots lorsqu'on a 15 ans et que l'on grandit dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis? Comment les élèves ont-ils illustré la devise à travers leur reportage? Au cours de cette émission, ils nous emmèneront dans leur ville, Saint-Denis, à la Maison des Femmes et à Médecins du Monde, mais aussi à Aulnay-sous-Bois pour rencontrer les bénévoles de la Croix-Rouge. Et nous irons également dans une école de mode à Paris pour parler vêtements et religion, mais avant, Saint-Denis vu par les élèves.
Bienvenue à Saint-Denis, où tout le monde est uni. Sans cette ville, la France ne serait plus pareille. Venez voir, vous n'en croirez pas vos yeux. Ouvrez grand vos oreilles.
Bienvenue à Saint-Denis, la ville où tout le monde sourit. C'est ici que je mène ma vie, c'est ici que je ris. Dans cette ville, on cède à n'importe quelle heure. Aucune différence entre les origines et les couleurs.
Si tu viens d'atterrir à Saint-Denis, ne te fais pas d'ennemis. Ici, on est tous amis. Tu as été prévenu, mais t'inquiète, même si certains ne mangent pas de porc, les gens, bon, on adore. Les gens s'accueillent à bras ouverts, il y en a même qui offrent le gîte et le couvert.
Ici, c'est Saint-Denis, aux portes de Paris. Si tu viens à la cité, t'es plutôt bien accueilli. Il y a toujours des exceptions, mais dans le fond, on est marginalisé. Ce que tu vois à la télé, faut pas généraliser.
Ok, j'habite à Saint-Denis, je fais mon possible pour ma survie. À la gare de RER, il y a des gens qui rôdent la nuit. Des bizarres, des paumés, mais aussi des sans-foyers. Des gens qui ont galéré et qui ne sont pas tirés. Ici, c'est Saint-Denis, aux portes de Paris. On est mis de côté et parfois même oublié.
Bon, moi je passe en dernier, alors je vais résumer. Saint-Denis recueille tous les gens qui ont besoin d'accueil. Saint-Denis est apprécié et en train de décoller. Ici on a plein d'idées et on crée les nouveautés. Saint-Denis est ici, juste au port de Paris. Elle est stigmatisée, mais ouvrez grand vos esprits, enterrez les préjugés. Laissez-nous une chance, on a plein d'insouciance.
Hey.
Merci pour ce portrait de Saint-Denis. Jefferson, à travers ce portrait de Saint-Denis, on a entendu que toi, tes camarades, vous étiez très attachés à cette ville. Quel regard tu portes sur l'endroit où tu habites ?
J'aime bien l'endroit où j'habite. Enfin, je connais tout le monde, y a tous mes copains.
Qu'est-ce qui vous lie ? Quelle est la valeur parmi justement celle de la devise républicaine entre égalité, liberté et fraternité ? Quelle est l'une des valeurs qui est la plus présente dans votre quartier ?
Je dirais la fraternité, parce qu'on a tous grandi ensemble. Depuis la naissance, on se connaît tous.
Et l'entraide, ça fonctionne vraiment ?
Oui, beaucoup, beaucoup.
Alors à ce sujet, je me souviens de Louay, qui dans une interview qui a été diffusée en décembre dernier sur France Inter, invitait tout le monde, tous les auditeurs de France Inter, à venir visiter Saint-Denis, justement pour voir qu'il y avait beaucoup d'entraide et de solidarité.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'entraide et de solidarité. On a tous grandi ensemble, on était tous dans les mêmes écoles, donc on se connaît, nos parents ils se connaissent, et on est une famille entière.
Maëva ?
Oui.
Est-ce que tu confirmes ce que vient de dire Louay ?
Oui, Saint-Denis c'est une famille. C'est même beaucoup plus qu'une famille, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Même si, des fois les médias ils véhiculent une mauvaise image, mais c'est pas du tout le cas.
Alors quelle image les médias donnent de Saint-Denis ?
Saint-Denis, il y a beaucoup de racailles, la violence, tout ça. Mais quand on y vit, c'est pas du tout la même chose.
Certains de vos camarades au micro de France Inter ont qualifié leur quartier de ghetto parce que, disent-ils, il est difficile pour eux d'en sortir. Qu'est-ce que tu en penses ?
Que si on a la volonté, on peut sortir de Saint-Denis. Si on y croit, je qualifierais pas Saint-Denis de ghetto, parce que c'est un grand mot.
Vous vous souvenez de Frédéric Sigrist, l'humoriste qui était présent sur scène lors des états généraux d'Interclasse en mars dernier ? Eh bien, il a grandi dans une cité et j'aimerais bien qu'on le réécoute pour vous faire réagir à ses propos. Il évoque ce que sont devenues les jeunes filles de sa classe qui étaient de brillantes élèves. Frédéric Sigrist au micro de Bruno Duvic.
Frédéric, je me tourne à nouveau vers vous parce que quand on a préparé cette émission, cet après-midi, vous me disiez, avant d'œuvre, quand j'étais gamin, les filles, c'était les meilleures. Non seulement c'était les plus fortes en classe, mais en plus, souvent, elles devaient assurer aussi à la maison. Elles faisaient tout. Elles sont devenues quoi ? Quand vous retournez à Vendeuvre, est-ce que vous me disiez elles devraient être tout en haut de la société, ces filles-là ? Elles sont devenues quoi ?
Oui, selon toute vraisemblance, elles devraient occuper les plus hautes fonctions dans toutes les entreprises parce qu'elles arrivaient à avoir de très très bons résultats dans des conditions d'apprentissage qui étaient véritablement atroces. Mais pourtant, elles cartonnaient, enfin, elles étaient brillantes.
Et les filles sont à la maison.
Les filles sont à la maison, alors que souvent,
de l'espace public.
C'était des personnes avec qui je riais, je m'amusais, etc. Et quand je les regardais, j'étais admiratif, parce que je me disais, cette nana-là, si elle transforme cette intelligence qu'elle a, parce que c'est des viviers de talent, elle va arriver au sommet de la société. Et aujourd'hui, souvent, je les vois avec leurs enfants. Elles baissent les yeux et j'ai même des copines qui ne veulent plus me parler toutes seules parce que leur mari ne le perd pas. Mari avec qui j'étais au collège. Mmh. Et en fait, c'est parce que le quartier, le fait de vivre comme ça en s'imaginant qu'on a des murs, des murailles autour de soi, et même si elles n'existent pas, eh ben on s'y confronte. Et au bout d'un moment, y a un avenir qu'on se ferme tout seul. Et c'est ça qui est le plus terrifiant dans ces quartiers-là, c'est que souvent on se ferme la porte tout seul, parce qu'il n'y a pas de porte, c'est une porte mentale.
Ce que nous dit Frédéric Sigrist, c'est que parfois on se crée une prison mentale et que des lycéennes, par exemple, capables d'envisager une carrière professionnelle, y renoncent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour casser ces codes de comportement ? Gaouré ?
Alors je pense que la femme ne doit pas dépendre de l'homme, que si elle a envie de travailler, elle le fait, et qu'il doit avoir les mêmes limites pour les hommes et les femmes.
Et tes parents partagent ce point de vue ?
Oui.
C'est eux qui te l'ont inculqué ?
Oui, mais moi aussi, je me le suis dit toute seule.
Et c'est venu comment, en fait ? C'est venu par des reportages que tu as pu voir à la télé, des séries, des films ou des livres ?
En regardant les réseaux sociaux et aussi le monde qui m'entoure.
Et qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux ?
Mais on voit des femmes qui ont réussi leur vie sans homme, qu'ils n'ont pas besoin que quelqu'un les pousse, qu'ils peuvent le faire toute seule et qui gagnent leur propre argent, ne dépendent de personne.
Et ça te donne de l'énergie et de la détermination pour te dire que toi aussi, tu peux y arriver ?
Oui, bien sûr.
Alors nous sommes avec les troisièmes du Collège Pierre de Jeter de Saint-Denis et nous allons écouter évidemment tous vos reportages. Mais dans une émission d'Inter et en plus l'été, on commence avec de la musique. Tied Up Right Now de Parcells. Et si vous n'êtes pas au bord de la mer, eh bien allez jeter un coup d'œil au clip. C'était Tied Up Right Now de Parcells.
France Inter.
Interclasse. Les ados au micro.
Interclasse.
Les ados au fond de la radio. Comme des pros.
Liberté, égalité, fraternité, c'est le thème des reportages réalisés au cours de cette troisième saison d'Interclasse, le programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter. Nous sommes avec Maëva, collégienne à Saint-Denis. Rebonjour Maëva.
Rebonjour.
Alors quel mot de la devise républicaine as-tu choisi avec ton groupe pour faire ce reportage ?
On a choisi d'illustrer la fraternité.
Oui, donc vous avez rencontré les bénévoles de l'association Médecins du Monde. Le local se situe à seulement quelques centaines de mètres de votre collège. Est-ce que tu connaissais cet endroit avant d'aller faire ce reportage ?
Oui, je connaissais.
Tu avais déjà été dans le local ?
Non, jamais, mais je connaissais.
Tu étais passé devant ?
Oui.
Allez, on écoute.
0, ça c'est un quoi ?
Médecins du Monde est une association qui vient en aide aux personnes les plus précaires. Nous nous sommes rendus dans un centre d'accueil de soins et d'orientation juste aux portes de Paris. Adeline Grippon est la coordonnatrice générale.
On va aller vers là-bas.
Je suis.
Donc bienvenue à Médecins du Monde, on est au Caso de Saint-Denis. Donc le Caso, c'est le centre d'accueil de soins et d'orientation. Et on accueille toutes les personnes qui sont exclues du système de santé et qui ont besoin de soins.
Pourquoi l'association elle est en banlieue parisienne en France et pas dans d'autres pays ?
Alors l'association est dans d'autres pays, mais elle est aussi en France parce qu'on a des gens qui n'ont pas accès aux soins en France, ce qui n'est pas normal. Donc c'est pour ça que Médecins du Monde est là. Et à Médecins du Monde, on soigne, mais on témoigne aussi pour faire changer la situation.
Et vous arrivez à gérer tout ça ?
Eh bien non, on n'y arrive pas. Et pourtant, ce centre est tenu par beaucoup de bénévoles qui viennent. On est toujours en manque de bénévoles. Et souvent, on n'arrive pas à traiter tout le monde. Donc, on renvoie les gens au lendemain ou on essaie de les orienter vers une autre structure. Il y a trop de monde.
Alors là, c'est les box accueil sociaux, en fait. C'est là où, avant de voir le médecin, les personnes vont avoir un premier entretien
pour compléter leur dossier. Et aussi, nous, ce qui va nous permettre de prendre des données qui seront anonymes et d'en faire du plaidoyer, de témoigner sur la condition des gens.
Bonjour, docteur.
Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Christian Ben-Simon. Je suis médecin généraliste à la retraite, mais bénévole ici depuis 3 ans.
Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué durant ces 3 ans?
Il y en a beaucoup, mais je me souviens, par exemple, d'une femme qui était partie de chez elle. Elle avait 2 petites filles. Elle ne voulait pas que ses 2 enfants soient excisés comme elle l'avait été excisée. Elle est partie de Côte d'Ivoire. Elle a migré un trajet long. Elle s'est retrouvée en Libye. En Libye, elle a été enfermée, elle a été maltraitée. Et elle a fui la Libye, elle a traversé, comme beaucoup de migrants, la Méditerranée. Et son bateau a coulé et ses 2 petites filles se sont noyées devant elle. Et elle est arrivée ici donc dans un état que, évidemment, vous pouvez imaginer. Donc c'est des situations comme ça qui ne sont pas tout aussi horribles et dramatiques, mais ça se répète quand même beaucoup.
Nous sommes arrivés au Caso de Saint-Denis un lundi matin. 1 heure après l'ouverture aux bénéficiaires, 100 de personnes attendaient.
Je viens du Mali. Je suis venu accompagner ma mère.
Pourquoi ici et pas ailleurs?
Le fait d'être ici, ça veut dire déjà que depuis au pays, il y a une faillite collective au niveau médical, au niveau de la santé. C'est ça qu'il faut dénoncer. Parce que même nos ministres, nos présidents, ils viennent se soigner ici. Pourquoi pas, monsieur tout le monde? Voilà, donc c'est aussi simple que ça. J'ai 2 compatriotes, ils me récitent la même chose, que ce soit au Mali ou ailleurs. C'est un manque de volonté. Parce que même s'ils ont un chien qui a mal à la tête, ils amènent en France pour faire soigner. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que c'est un manque de moyens. C'est pas un manque de moyens, c'est un manque de volonté politique.
Bonjour. Entre 2 patients, nous entrons dans l'infirmerie. Annie Grunenberger est une habitante de Saint-Denis. Après plusieurs années en Afrique, elle est depuis 8 ans infirmière bénévole au CASO.
Bienvenue.
Merci.
On est tous humains sur cette terre. Et là, on bagarre avec Médecins du Monde. Si on se mettait tous debout, un peu plus solidaires, on arriverait à bouger les choses. Arriver pour soi-même, non, c'est fini, on ne peut pas arriver pour soi-même, il faut arriver ensemble. C'est avec la jeunesse qu'on va changer les choses. Hein? C'est vous l'avenir. En plus, vous êtes décolorés, en plus, parmi nous. On est très contents, nous. C'est vrai, c'est ça le monde. C'est un monde coloré, c'est joyeux, c'est... Voilà, on voudrait que chacun ait les mêmes droits.
Merci à Sarah, Maëva, Nicoletta, Naïsetou, Jefferson et Ibrahima pour ce reportage à Médecins du Monde réalisé avec Emmanuel Kérad. Maëva, l'infirmière que l'on entend à la fin du reportage dit, je la cite, « Il faut tous se mettre debout et être solidaires pour faire bouger les choses ». Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est la vérité. Parce que si on s'unissait tous, on pourrait réussir à bouger les choses.
Qu'est-ce que tu voudrais faire bouger?
L'égalité pour la médecine, que tout le monde soit soigné. Parce que c'est important, la santé.
Elle dit également, avec la jeunesse, on peut faire évoluer la société. Est-ce que tu en as conscience?
Oui, j'en ai conscience. Parce que c'est nous qui allons prendre la place de nos parents. C'est nous qui allons voter et tout ça.
On s'est beaucoup préparé en classe avant les interviews. On a fait des jeux de rôle, des simulations. Mais une fois qu'on est sur le terrain, quand on est confronté à la réalité, et notamment à cette réalité quand même pas simple à Médecins du Monde, comment ça vous a aidé à être en situation d'interview? C'est important ce travail préparatoire?
Oui, c'est important. Parce que ça nous a préparé d'un côté à être moins stressés, mais on avait quand même le trac. Et ça nous a appris aussi à appréhender les réactions des bénéficiaires. Par exemple, il y en a certains qui avaient un petit peu peur de nous parler au début. Mais après, ça va, c'est passé normalement. Et il y en a d'autres qui nous ont carrément refusé. Mais sinon, franchement, le reportage, il s'est très bien passé.
Ce que l'on fait en classe, ça te donne confiance en toi, Maëva?
Oui. Parce qu'avant, j'avais un peu le trac de parler à l'oral et maintenant, ça va.
Est-ce que tu aimes l'école?
Oui.
Et Gaouré, c'est un lieu important pour toi, l'école?
Oui, parce que c'est grâce à ça que plus tard, on aura un métier.
C'est quoi un bon prof pour toi?
C'est un prof qui se met à notre place, qui nous écoute, qui répond à nos questions, qui est attentif et qui n'est pas trop carré.
Et à quoi ressemblerait une école idéale, Gaouré?
Ben, où tout le monde s'entend, où il n'y a pas d'inégalité.
Il y a de l'inégalité à l'école?
Oui.
Où ça?
Entre les filles et les garçons.
Ah, alors comment elle se traduit, cette inégalité?
Ben, je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, on va dire dans la cour, les filles vont plus se mettre sur le banc et les garçons jouent au foot, par exemple.
D'accord, ils occupent tout l'espace.
Oui, voilà.
Agnaline, l'école idéale, elle ressemble à quoi?
Une école idéale, pour moi, c'est quand il y a aussi les profs qui sont présents, qui veulent nous transmettre leur savoir. Parce que je pense que la base de l'école, c'est de nous faire apprendre. Donc du coup, l'école idéale, ça se résumerait à ça.
Alors ici, on n'est pas à l'école, ni dans une salle de classe, mais en studio. Et comme c'est votre émission, c'est vous qui programmez la musique. Naïsetou, qu'est-ce que vous avez choisi?
On va écouter M.E.M. de NASA, un artiste qu'on a sélectionné et qu'on écoute beaucoup.
Igo, c'est la guerre. Oh, faut mouiller les maillots, Igo, c'est la guerre. Oh, faut suer pour le Zéo. Genre t'as encaissé, mais ça c'était le passé. Fais pas l'ancien, on sait que t'es dépassé. Maintenant sur le rinté, c'est moi qui a le brassard. T'es dans le placard, tu portes même les dossards. Igo, c'est la guerre. Oh, et j'ai pas le temps, Igo, c'est la guerre. Oh, j'suis en plein dedans. Ma coloche, coloche dans la lumière. Me corps, tu n'as plus l'envie. Ma coloche, coloche dans la lumière. Me corps, tu n'as plus l'envie. Hey. Ils sont grave, achètes, grave, on chien, bâtard, t'es pas méchant. Ils sont pas dangereux, pas d'honneur, bâtard, t'es pas méchant. On va grave manger ça, manger tout en levant le majeur. Ils sont grave, achètes, grave, on chien, bâtard, t'es pas
on
méchant.
On va mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Ah, mouiller le maillot émaillé.
C'était MMM de NASA.
Interclasse.
On est déter.
Oh my god.
Sur France Inter.
Et ils sont tellement déter, nos mini-journalistes d'Interclasse, comme ils se sont eux-mêmes surnommés, que ceux de Saint-Denis sont allés faire du reportage à Aulnay-sous-Bois et on prend maintenant le RERB. On est avec Chandelle, Sandrine, Penda, Louay et Branham. Et trois quarts d'heure plus tard, on descend à la station d'Aulnay-sous-Bois. Et à quelques centaines de mètres de la gare, un petit local qui ne paye pas de mine, mais grâce à lui, des familles entières survivent. L'entraide à la Croix-Rouge, c'est le titre de votre reportage. Penda, quel mot de la devise avez-vous choisi?
Nous avons choisi la fraternité.
Et quel est l'angle du reportage?
On a interviewé des bénévoles qui sont à la Croix-Rouge pour venir en aide aux sans-abri.
On écoute.
Bonjour, je m'appelle Louay et aujourd'hui on est avec France Inter pour visiter la Croix-Rouge à Aulnay-sous-Bois. Là on est devant et je m'attendais à plus grand. Bon bah on va rentrer, on va visiter les locaux de la Croix-Rouge. Nous avons été reçus par le président de la Croix-Rouge de Seine-Saint-Denis, Jean-Marc Agustinucci. Il a détaillé pour nous les activités de l'association à Aulnay-sous-Bois.
On fait tout ce qui existe dans le domaine social. La distribution alimentaire, de l'épicerie sociale, du vestiaire, de la vestiboutique, de l'alphabétisation, du transport de personnes âgées ou handicapées, jusqu'au microcrédit, c'est-à-dire prêt de petites sommes d'argent pour que les gens puissent débuter une entreprise.
Dans le hall d'entrée, très occupé, il y a Annie, bénévole, qui accueille ses bénéficiaires. Elle est très souriante et semble connaître chacun d'entre eux.
Formez-vous un lien avec les bénéficiaires?
Ah oui, c'est essentiel. Le plus de la Croix-Rouge française est justement de ne pas uniquement distribuer de l'alimentaire, mais de créer un lien avec ces personnes qui sont en souffrance, pour leur permettre de nous parler. On est là pour écouter, puis faire en sorte aussi qu'ils puissent passer dans nos locaux un moment sympathique.
Nous avons aussi rencontré Nicolas, bénévole depuis janvier 2016. Il pense de son côté qu'il faut savoir prendre ses distances avec les bénéficiaires.
Une nuit à la rue où j'ai rencontré une jeune fille qui avait une facilité à parler de sa situation qui était très très difficile. On pouvait percevoir en fait sur son visage ou sur la manière dont elle parlait sa souffrance et en même temps elle rigolait beaucoup, elle avait beaucoup de joie de vivre dans ses échanges. En tant que bénévole, même si on a beaucoup de moyens pour agir, on ne peut pas aller trop loin, il faut savoir se préserver, il faut savoir faire attention à soi-même et ça peut des fois engendrer de la frustration ou être compliqué à gérer.
Pascal est un autre bénévole, il multiplie les allers-retours pour fournir les bénéficiaires en nourriture.
Juste, je regarde donc le nombre de personnes, vous voyez là il y a 3 personnes, 2 parents, 1 enfant et l'enfant a 9 jours. 2 barquettes d'œufs, on quitte la chambre froide, voilà, tout ça c'est gratuit.
Nous avons eu la chance d'entendre son histoire. Ancien sans-abri, il a voulu rendre ce qu'on lui a donné.
J'ai reçu beaucoup d'aide de la Croix-Rouge, beaucoup de liens, beaucoup de chaleur. On a vite fait pour se sentir mieux aussi d'oublier d'où on vient, d'oublier la difficulté, de regarder vers les choses qui sont plus agréables. Et donc pour ne pas oublier, effectivement, c'est parce que la Croix-Rouge m'a aidé que je viens les aider. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir l'expérience des deux côtés du camion. Et en général, le regard qu'on a sur le monde, il est directement lié à l'expérience qu'on a pu retirer et des marques qu'on en retire. Pour la Croix-Rouge, j'ai effectivement un lien tout particulier, très personnel.
Sur un siège, à côté d'autres bénéficiaires, Joseph attend son tour. Nous en avons profité pour lui demander d'où il venait.
Je suis entré en France avec un visa normal, visa touristique avec ma femme. Et puis, avec le temps, je me suis retrouvé dehors. J'ai vécu des moments difficiles.
Il est arrivé en France il y a 6 mois. À 28 ans, il a fui l'Algérie. Nous lui avons demandé pourquoi.
Espérant d'une vie meilleure qu'en Algérie, c'est l'instabilité, il y a beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil des bénévoles ?
Elle est magnifique. Ouais, j'espère que le bon Dieu bénisse ces bénévoles. Ils font tout leur possible pour aider les gens.
Vous avez un but dans votre nouvelle vie française ?
Oui, c'est de régulariser ma situation et d'avoir mes enfants là en France et faire une vie en France.
C'était un reportage de Sandrine Nguessan,
Chandel Niali, Penda Touré,
Louel Nafaroui et Branham Bikouza.
Un reportage réalisé avec l'aide de Cyril Graziani, journaliste au service politique de la rédaction de France Inter. Un reportage donc inspiré du mot fraternité. Et depuis le début de l'été, dans les émissions, quand les élèves parlent de la devise républicaine, le mot qu'ils préfèrent, c'est le mot fraternité. Parce que pour eux, c'est celui qui, en France, est le plus respecté. Gaoué, est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue ?
Oui, je suis d'accord. Parce que je pense que la fraternité, c'est très important dans la vie.
Louaye, c'était une grande première pour toi d'aller faire un reportage sur le terrain.
Effectivement.
Qu'est-ce qui t'a paru difficile ?
C'était délicat de demander aux bénéficiaires qu'on pouvait les interviewer. Il y en a qui disaient non et parfois ça faisait mal au cœur.
Celle qui prend la parole maintenant, c'est Mélissa Lavo, Angelico.
Angelico de Mélissa Lavo, choisie par Jean-Baptiste Audibert, programmateur musical qu'on adore. Son métier, découvrir de nouveaux talents. Et ça fait rêver, évidemment, les élèves d'interclasse quand ils viennent à Radio France.
France Inter. Interclasse.
Troisième reportage des élèves de Saint-Denis, direction Paris dans le 9e arrondissement. Les collégiens sont allés dans une école de mode. Lilia, quel mot de la devise avez-vous choisi ?
La liberté.
Et donc vous avez illustré de quelle manière ce mot liberté ?
Avec la liberté de s'habiller.
La liberté vestimentaire et les exigences religieuses, un reportage d'Agnaline, Ariane, Lilia, Ryan, Anis et Jordan.
Est-ce qu'on peut être élégant tout en respectant les codes vestimentaires imposés par la religion ? Pour répondre à cette question, on est allé rencontrer ceux qui feront bientôt la mode, les étudiants de l'école Motspé, dans le 9e arrondissement de Paris.
On est dans une pièce où les tissus sont stockés avec des matières différentes et des couleurs différentes. C'est ici que les étudiants viennent faire leur choix de tissus.
La mode, c'est la liberté de choisir, de porter, et donc c'est la liberté de marier sa vie ou d'avoir sa vie personnelle, intérieure, religieuse, et d'avoir son propre choix de vêtements, comme on l'entend.
Bruno Bénédic est un prof de marketing à Motspé. Il est aussi sociologue de la mode. Nous lui avons posé quelques questions sur la mode et la religion.
Bonjour, je m'appelle Agnaline, je viens du collège Pierre de Jeter. Religieusement, est-ce qu'on peut être élégant ?
Mais oui, vous avez tout ce courant hijabistas qui joue sur le mot hijab et fashionista, qui montre qu'on peut être élégant et qu'on peut avoir des sacrés looks avec ça. Vous avez depuis 2 ans la Dubai Fashion Week, la Riyad Fashion Week. Alors Dubaï, c'est assez libéral, Riyad, c'est assez sévère. Il y a donc vraiment une éclosion de vêtements de mode colorés, très démonstratifs, qui empruntent les codes, sinon religieux, donc les codes traditionnels du vêtement de la femme arabe ou de la femme du Golfe.
Les robes qu'elles portent s'appellent des abayas. Et le voile qui couvre tout leur visage, à part leurs yeux, c'est un niqab.
Ça leur coûte certainement bien moins cher en botox.
On peut être à la mode et avoir des vêtements à caractère religieux très délurés.
Nous lui avons demandé les raisons qui peuvent amener certaines sociétés à casser les codes de la mode.
Soit c'est le petit costume Mao des années 60, les Chinois s'habillaient pareil. Soit c'est les régimes fascistes qui ont interdit les pantalons aux femmes parce que c'est trop masculin. Soit c'est en effet l'Iran des ayatollahs où toutes les femmes sont couvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence et on ne peut pas exprimer sa différence à travers ses vêtements. Est-ce que c'est le sens que la mode doit avoir ? Est-ce que c'est le sens, au-delà de la mode, que nos sociétés doivent avoir ? Il y a vraiment débat.
Nous avons interrogé plusieurs étudiants de l'école Motspé pour nous parler de leur vision de la mode et de la religion.
Alors, je m'appelle Claire Berchebru, je suis en première année Motspé, chef de produit.
Est-ce que la mode pudique est la mode de demain ?
Je ne sais pas si on pourrait la qualifier comme la mode de demain, mais je pense que ça pourra être une grande partie de ce qui va se faire, en tout cas, dans les prochaines années.
Est-ce que c'est une bonne chose ?
Bah, avec le contexte actuel, je pense que oui, c'est une bonne chose, en sachant que tout le monde n'est pas forcément obligé de s'afficher à ce niveau-là. Je pense qu'afficher sa religion par rapport à son style, par rapport à ses vêtements, c'est pas un problème non plus.
Je m'appelle Cédric, j'ai 22 ans et je suis en première année chef de produit à Motspé Paris.
Est-ce que vous pensez que la religion n'est pas compatible avec la mode ?
Alors moi, je pense que la religion est tout à fait compatible à partir du moment où chaque religion a des vêtements traditionnels qu'on peut réinterpréter avec respect. Je pense qu'on peut reprendre la religion dans les vêtements pour en faire un produit mode ou un produit religieux, peu importe.
C'était un reportage d'Agnaline Amash,
Ariane Malepou,
Lilia Bendeka,
Defaï Rayan, Anis Nebri
et Jordan Inar.
Reportage réalisé avec Mathilde Bénezé, étudiante à l'Institut pratique du journalisme Paris-Dauphine. Yanis Roder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie au collège Pierre de Jeter à Saint-Denis. Dans ce reportage, on entend une jeune fille dire, je cite, « Afficher sa religion par rapport à son style et ses vêtements n'est pas un problème. Est-ce que pour vous, au regard du contexte actuel, ça peut au contraire en constituer un ?»
Alors, ça n'en constitue pas un de manière systématique, mais tous les vêtements ne disent pas la même chose. Tous les vêtements religieux ne disent pas la même chose. Et certains vêtements portent, au-delà du discours religieux, un discours social et politique. C'est effectivement ce qui n'apparaît pas dans le reportage. Les élèves ont une vision adolescente de ces questions. Le vocabulaire employé, ils n'ont pas nécessairement le recul nécessaire pour réfléchir dessus. Voilà, il faut être prudent quant à ce qu'on avance. Quant à ce que disent certains étudiants, je pense que eux sont plus âgés et devraient peut-être réfléchir davantage au vocabulaire employé. employés et à la signification profonde de leurs propos.
Alors au sujet de la liberté de porter les vêtements qu'on souhaite, Ariane.
Bonjour.
Bonjour Ariane. Je te propose un petit retour en arrière. En février dernier, tu étais au micro de Fanny Léonore Crouzet et tu lui parlais de la difficulté de s'habiller comme on veut dans les quartiers. On t'écoute.
Il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes qui oseraient, par exemple, porter des robes pour les femmes et elles n'osent pas parce qu'elles ont peur des regards des autres, elles ont peur qu'on les regarde méchamment ou qu'on fasse des commentaires, du coup elles n'osent pas. Comme moi, par exemple, quand je m'habille, parfois, je me mets exemple en robe, on va beaucoup parler, du coup maintenant j'ose plus trop.
C'est dû à quoi que les femmes ne puissent pas s'habiller comme elles le veulent ?
Il y a la religion, il y a les religions. Je trouve que c'est beaucoup les jeunes de cité, on peut dire, qui gouvernent, si on peut dire comme ça, Saint-Denis. Et du coup, eux, ils acceptent pas tout le temps qu'ils vont voir une fille, ils vont trop parler, ils vont la traiter de. Ils vont dire des mots vulgaires, et du coup, maintenant, c'est pour ça qu'on n'ose plus.
Merci Ariane pour ton témoignage très touchant. Est-ce que ce sujet, tu l'abordes à la maison ou avec tes copines ?
Non, je ne l'aborde pas avec ma famille.
Pourquoi ?
Ou mes amis.
Mais pourquoi ? Parce que c'est difficile d'en parler ?
Pas forcément, mais je n'ai pas forcément moi aussi envie d'en parler.
Et est-ce que tu penses que lorsque tu seras adulte, tu pourras t'habiller comme tu veux ?
Je ne sais pas, car ça dépend si le regard des gens sera toujours le même. Aujourd'hui, les gens se permettent de juger les filles, les femmes dans leur façon de s'habiller.
Qu'est-ce que tu feras pour être libre de t'habiller comme tu veux ?
J'expliquerai aux gens qu'il ne faut pas juger les gens par rapport à leur apparence.
Autour de la table, il y a des filles et des garçons. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez, par exemple les garçons, la manière dont les filles s'habillent ? Jefferson.
Non, moi personnellement, j'aborde pas ce sujet.
Et qu'est-ce que tu penses du témoignage d'Ariane, qui dit qu'elle peut pas s'habiller comme elle veut dans le quartier ?
Je trouve qu'elle a raison, parce qu'il y a des garçons qui jugent comment les filles s'habillent. C'est pas à eux de dire ça, en fait. C'est les filles, elles font ce qu'elles veulent. Du coup, ils doivent pas leur dire de s'habiller comme ils veulent.
Alors, le reportage qu'on a écouté parlait évidemment de la mode, mais dans un contexte aussi de religion. Gaouré, est-ce que vous parlez parfois de la religion entre vous ?
Oui, on parle de la religion entre nous.
Est-ce que tu trouves que les différentes communautés de Saint-Denis vivent bien ensemble ?
Oui.
Loueil, tu en penses quoi ?
Oui, on est fraternel, qu'on soit chrétien, juif, ou musulman, ou maghrébin, ou noir, ou chinois, ça ne change rien. On s'entraidera toujours. Et ça, c'est une bonne facette de Saint-Denis.
Est-ce que la religion, c'est un sujet qui revient souvent dans vos conversations avec tes copines ? Agnaline ?
Oui, surtout à la fin du collège où il y a eu le ramadan et il y a eu la question qui s'est posée, est-ce que tu fais le ramadan entre toutes les personnes ? Même on a posé cette question-là à des personnes qui n'étaient pas d'origine musulmane.
Et donc vous abordez facilement le sujet de qui fait le ramadan ou pas ?
Pas moi personnellement, parce que je trouve ça assez dérangeant.
Tu trouves ça trop intime ?
Oui, voilà. Pour moi, la religion, c'est de l'ordre privé.
Est-ce que tu as l'impression que la religion est très présente dans vos quartiers ?
On peut voir beaucoup de femmes qui sont voilées. Il y a une mosquée et une église à côté, donc on voit très souvent des gens y aller en tenue traditionnelle ou pas.
Et tu en penses quoi de ces différentes communautés qui cohabitent ?
C'est plutôt pas mal.
On ne peut pas finir la saison d'Interclasse sans une chanson dédiée à Paris, capitale de joie et de drame, territoire inépuisable de reportages, source magnifique d'inspiration pour nous tous. Gaël Faye, Paris Métech.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle des silences cacophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. Paris.
vie s'éveille sous un ciel océanique. L'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. Une ville de liberté pour les différents hommes. Des valises d'exilés, des juifs errants et des roms. Aux mémoires de pogroms, aux grimoires raturés. Des chemins d'Erevan, aux sentiers de Crimée. Caravane d'apatrides, beau people, caravelle. Sur tes frontons, Paris vient lire l'universel. Et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine. Capitale de la monde, à jouer la mondaine. Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores. Cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un.
Magnifique Paris Métèque de Gaël Faye, et je vous invite à aller sur la page de l'émission pour découvrir à travers son clip les belles images d'archives de la capitale.
France Inter.
Vive France Inter, vive Interclasse.
C'était grave bien, et si j'aurais une autre possibilité de refaire cette expérience, je la refais.
Interclasse.
Vous écoutez Interclasse, c'est la troisième saison du programme d'éducation aux médias et à l'information de France Inter. Et à présent, le dernier reportage de la saison. Fatoumata, bonjour.
Bonjour.
Quel mot avez-vous choisi ?
Nous avons choisi d'illustrer le mot égalité.
Et vous êtes allée ?
À la Maison des Femmes de Saint-Denis.
Alors c'était en février, dans des conditions un peu particulières.
Oui, il y avait beaucoup de neige.
Oui, effectivement. La Maison des Femmes a ouvert ses portes il y a 2 ans, grâce à l'énergie et à la détermination du docteur Rada Hatem, qui a fondé cette structure unique en France pour les femmes victimes de violences physiques et morales. Un endroit où chacune peut venir parler en étant écoutée, sans être gênée, jugée ou avoir honte. La Maison des Femmes, un reportage de Maya, de Gaouré, Fatoumata, Koudjedji, Ziad et Fazil.
Nous arrivons à la Maison des Femmes à Saint-Denis. Nous avons marché une demi-heure sous la neige et nous allons sonner à l'interphone. Bon, on va entrer.
Là, actuellement, nous sommes dans le hall avec toutes les patients et les patientes. La secrétaire qui est juste à côté. Et c'est parti pour l'interview.
Bonjour, je suis le docteur Hatem, la fondatrice de la maison. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre ?
Oui.
Oui. Mais je vous emmène dans la mezzanine. Suivez-moi.
En quoi consiste votre rôle pour les femmes qui viennent ici ?
Alors, la maison a plusieurs rôles ici. Par exemple, une femme qui est maltraitée par son compagnon depuis longtemps et qui un jour n'en peut plus et prend ses valises et ses gamins sous le bras et se dit « je vais m'en aller, ça ne peut pas durer ». Sauf qu'elle fait quoi ? Elle va dans la rue, elle dort où ? Elle mange quoi ? Donc, on a une assistante sociale qui peut l'orienter, essayer de lui trouver un hébergement d'urgence, des endroits où on peut aller dans la journée pour manger, pour rester au chaud. Tout ça, c'est pas facile. Et puis après, il faut des procédures, parce que c'est pas normal que ça soit la maman et les enfants qui s'en aillent, et le mari méchant qui reste dans le bel appartement. Donc, il faut aller déposer plainte, il faut trouver un avocat, il faut entamer une procédure pour que ce soit le mari qui s'en aille, que la femme ait un toit avec ses enfants, qu'elle soit protégée, etc., etc. Donc, pour une femme qui est dans toute cette difficulté, c'est impossible de faire tout ça. Et ce qu'on offre à la Maison des Femmes, c'est tous ces gens-là.
Nous avons rencontré Arnaud Seven.
Moi, je suis sexologue, donc je vais m'occuper de la sexualité, mais de la sexualité au sens général.
Il accompagne les victimes de mutilations sexuelles.
Il nous explique son rôle et sa place d'homme dans cette association où les femmes sont bien souvent victimes d'individus masculins.
En fait, à partir du moment où vous-même vous êtes à l'aise, la personne en face de vous, très rapidement, elle est à l'aise. Et à la limite, parfois, je pense même que c'est plutôt un bienfait finalement que dans un centre où on reçoit beaucoup de femmes qui ont été victimes d'hommes, de pouvoir tout d'un coup avoir un homme qui vont leur parler peut-être autrement que de la façon dont leur parlaient certains autres hommes. Et donc de leur donner une vision de l'homme qui peut être différente de celle à laquelle elles ont été habituées ou en tout cas à ce qu'elles ont pu vivre à travers des expériences douloureuses.
Pour les victimes de violences sexuelles, le travail de reconstruction est délicat. Tant les traumatismes physiques comme psychologiques peuvent être profonds.
Zaina est victime de violences conjugales. Ses agressions à répétition ont fini par lui faire croire qu'elle était inutile.
J'aime ma profession, mais je suis incapable de reprendre aujourd'hui la défense d'autrui. Incapable. J'ai toujours été utile. Et là, sans travail, je me sens inutile. Madame Matem répare les femmes qui ont été victimes d'excision, mais elle nous répare nous aussi, nous les femmes qui avons subi des violences conjugales.
Zaina, si elle va mieux aujourd'hui, a encore beaucoup à faire pour se reconstruire et à apprendre à refaire confiance.
Je ne pourrai plus un jour refaire confiance à un homme. J'aurai toujours cette image de l'homme qui hurlait, qui me faisait des remontrances désobligeantes. Oui.
Mais la maison des femmes, ça sert à ça, à refaire confiance, à refaire votre vie.
Oui, mais là, je ne suis pas encore prête. Là, je pense à moi, je pense à ma petite personne, parce que je l'ai souvent mise de côté.
La maison des femmes de Saint-Denis est ouverte à toutes celles qui en ont besoin, tous les jours et sans rendez-vous. Des professionnels sont volontaires et disponibles pour écouter, accompagner et aider les femmes vulnérables ou victimes de violences.
Un reportage de Maya Rogue, Gaouré Sissé,
Koujedji Fall,
Fatoumata Traoré,
Ziad Lalou et Fazil Moussaoui.
Merci pour ce reportage. Quelle est la place des femmes dans notre société? Quelle vision vous en avez, Louay?
Souvent, on dit que les femmes sont les mamans, sont mères au foyer, ne travaillent pas, mais c'est le contraire. Il y en a beaucoup plus qui travaillent qu'il y en a de mères au foyer.
Agnaline ?
Les problèmes de femmes ne sont pas encore très écoutés. Par exemple, le cas d'harcèlement de rue, il a été écouté seulement quand il y a eu l'affaire du producteur à Hollywood.
Après avoir abordé la place des femmes dans la société, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu de ce que vous pensez de la place des jeunes dans notre société. Est-ce que vous trouvez que vous êtes suffisamment représentés, Louay ?
Non, d'un côté parce que je viens de Saint-Denis aussi, parce que c'est très sous-coté. Et de l'autre parce que les adultes ne font pas très attention à ce que disent les enfants. Enfin, les enfants, les adolescents.
Agnaline ?
On ne prend pas réellement notre avis en compte, même quand on est en cours. On ne travaille pas beaucoup à l'oral et on travaille plus à l'écrit, on nous apprend plus l'écrit que l'oral. Alors qu'Interclass, ça nous apprend justement à ça, à travailler l'écrit, à argumenter à l'oral et à travailler l'oral.
Quand on est jeune, on a des rêves. C'est quoi, toi, ton rêve, Agnaline ?
De réussir dans la vie d'une certaine manière.
Et c'est quoi cette certaine manière ?
De terminer mes études et de commencer à vouloir défendre des causes.
Quelles causes tu aimerais défendre ?
Les causes comme l'inégalité homme-femme, la place des jeunes aussi.
Gaouré, quel est ton rêve ?
C'est de subvenir à mes besoins sans dépendre de personne.
Et alors, t'envisages de faire quoi pour ça ?
Et de travailler dur à l'école et voilà.
Et après, de faire des études ?
Oui.
Et tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire ?
Non, j'ai pas encore d'idée.
Louay, ton rêve, il ressemble à quoi ?
Conquérir le monde.
Ah, alors ça c'est très ambitieux et ça m'étonne pas de toi.
Et sortir de Saint-Denis.
Ah, comment tu comptes t'y prendre alors ?
En travaillant. Parce que avant le projet Interclass, c'était l'une des premières fois que je venais à Paris.
Oui.
Et j'ai découvert une autre facette de la France. Je restais plutôt à Saint-Denis et j'ai pas beaucoup bougé à Paris.
Alors ensuite tu vas conquérir le monde ?
Oui.
Par quel moyen ? Est-ce que tu as une idée ?
Oui, faire du commerce. Ça serait bien pour envisager une nouvelle vie à l'étranger.
Fazil, quel est ton rêve ?
Moi, mon rêve, c'est de travailler à la radio, de faire animateur radio sur n'importe quelle chaîne de radio.
Interclass.
Place à présent aux enseignants de Saint-Denis. Qu'est-ce que vous ont appris vos élèves cette année, Maude Houdard,
professeurs de lettres ?
Qu'ils ont des choses à dire. Parce que parfois, on l'oublie, on pense qu'ils sont passifs, qu'ils attendent un petit peu que ça se passe, surtout qu'ils passent le brevet cette année. Mais en fait, non, ils ont des choses à dire. Et leur vision du monde aussi évolue avec le projet, et c'est ça qui est intéressant. Leur entendre dire des choses de plus en plus construites et argumentées.
Gilles Guéger, vous êtes professeur de technologie.
Oui, ce qu'on apprend un petit peu avec eux tous les ans, c'est à la fois leur manque de maturité face à certaines situations et à d'autres moments, justement, leur grande maturité face à certaines situations.
Yannis Roeder, que vous ont appris les élèves cette année ?
Mais comme tous les ans, les élèves m'apprennent qu'ils sont uniques, que chaque élève est unique et qu'ils nous apprennent beaucoup sur nous, à la manière dont nous devons réagir face à des personnalités qu'on découvre un petit peu là, à chaque fois qu'on fait ce travail d'interclasse.
Je me tourne à présent vers l'équipe de France Inter, Emmanuel Kerrad, producteur de la librairie francophone estivale. Que vous ont apporté les élèves d'interclasse cette année ?
Ils m'ont rappelé l'importance de la notion de fraternité. J'ai entendu tout à l'heure Jefferson qui parlait de la fraternité, où il disait « on a tous grandi ensemble ». Et ça, ils nous l'ont dit en classe. Vous vous souvenez, vous Emmanuel, avec Cyril aussi. Ils nous ont parlé de cette fraternité qui les liait. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus beau ? Et c'était une expérience encore magique.
Cyril Graziani, reporter au service politique de France Inter. C'était une première interclasse pour vous. Qu'est-ce que vous retenez de l'expérience ?
C'était une première et je peux vous dire que j'ai déjà hâte de recommencer l'an prochain,
si c'est
possible.
Ah, ça si c'est sympa,
évidemment.
Merci de remplir.
Comme le disait Maud tout à l'heure, ce qui est assez bluffant, c'est de voir qu'ils ont des choses à dire. Et que, au fur et à mesure de l'année, leur discours a évolué. Et par ailleurs, je pense que les journalistes ont une responsabilité d'aller au contact de ces jeunes, d'aller au contact des jeunes, tout simplement, pour essayer de leur expliquer ce qu'est le journalisme d'aujourd'hui et ce qu'est la citoyenneté.
Merci Cyril. Et c'est avec Saint-Denis que s'achève la troisième saison d'Interclasse dédiée à la devise républicaine. Nous étions 180 cette année, élèves, enseignants, professionnels d'Inter, à vivre cette aventure. Merci à tous nos collégiens et lycéens pour la qualité de leur écoute, leur investissement dans ce projet au long cours. Merci pour la richesse de nos dialogues, pour votre confiance. Je remercie également, évidemment, aujourd'hui Cyril Graziani, Emmanuel Kerrad et Mathilde Bénezé, ainsi que toutes les autres équipes de France Inter. Merci également aux enseignants de Saint-Denis, Maud Oudard, Yannis Roeder et Gilles Guéger, et tous vos collègues des établissements de Grigny, Sarcelles, Aulnay-sous-Bois et Paris, impliqués dans le dispositif, ainsi que vos chefs d'établissement. Nous saluons aussi nos partenaires, le CLEMI, la Fondation de France, Netia et l'Institut pratique du journalisme Paris-Dauphine. À la réalisation de cette émission, le sourire accroché aux lèvres, Sonia Leglen. À ses côtés, chargée de la production, l'irrésistible Fanny Léonore Crouzet. À la technique, Michel Bézikian, de son vrai nom, Michael Casanova. Et à tous, je vous souhaite de belles et douces vacances. L'été se poursuit sur France Inter avec dans les oreilles ce magnifique